Bonjour chères auditrices et auditeurs, alors nous sommes au festival What a Trip en compagnie de l'écrivain et documentariste qui a gagné le prix littéraire What a Trip, Michael Brazan, auteur d'un livre magnifique, Varlam. Bonjour Michael Brazan.
Bonjour.
Donc oui, on va parler un tout petit peu de vous peut-être avant de parler de... J'allais dire des Varlam, parce que je me dis, il y en a trois. Il y a un écrivain, il y a un livre, et puis il y a celui qui, dans le livre, porte le nom de Varlam. Alors, documentariste et écrivain, d'abord documentariste, puis écrivain, ou dans quel sens ça a fonctionné ?
Alors, ça dépend de quelle manière on regarde les choses. D'un point de vue rémunérateur, on mettrait documentariste en premier. Et du point de vue de ma biographie, je crois que j'ai toujours écrit et puis je ne cesserai jamais d'écrire. Quand on écrit, on ne peut pas s'en empêcher, quel que soit le résultat et la rémunération qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, non, c'est les deux casquettes et puis aussi un peu journaliste. Enfin, j'ai fait du journalisme toute ma vie et dans une première vie, j'ai été prof de lettres pendant 10 ans à l'éducation nationale, en lycée et collège, surtout lycée, il faut bien le dire. Dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc j'ai essuyé beaucoup des problèmes de la société française avant qu'elle nous éclate à la figure aujourd'hui, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, dans ce qu'on appelle dans l'éducation nationale les zones d'éducation prioritaire.
Alors, on appelait ça comme ça de mon temps, je ne sais pas si elle s'appelle toujours ainsi aujourd'hui, mais oui, c'est exactement ça.
Alors, bon, et puis il y a tout un tas beaucoup de documentaires hein, qui sont partis, souvent doublés d'un écrit, alors, ou un écrit doublé d'un documentaire.
Oui, ça dépend. Parfois, les films ont précédé les livres, et puis parfois, c'était le contraire. Mais c'est vrai que quand on s'attache à un sujet qui prend entre 2 et 4 ans, ça dépend des projets et des films, on amasse une documentation et une connaissance incommensurable par rapport à un format télé qui fait 60 minutes, voire 90 minutes. Et on est toujours un peu frustré parce qu'on n'a pas pu tout dire. Le format nous impose et c'est normal et c'est mieux pour le spectateur aussi. Mais en revanche, dans un livre, on a toute la latitude et toute la liberté de pouvoir en dire bien davantage sous une autre forme. Et c'est aussi ça qui m'intéresse parce que les sujets qui m'intéressent, évidemment, j'ai envie, après les avoir travaillés aussi longtemps, de pouvoir en dire le maximum, transmettre un maximum de choses. Et l'intérêt aussi, c'est que contrairement au documentaire, quoique ça dépend, c'est vrai qu'on peut faire des documentaires personnalisés à la première personne, mais dans un livre, dans un récit de voyage par exemple, dans un making-of, puisque c'est un peu le cas du livre dont on parle aujourd'hui, on peut raconter les choses de l'intérieur et non pas simplement s'attacher à une narration historique. Donc je raconte aussi l'envers du décor, je raconte dans Varlam ce qui nous arrive au quotidien et comment on fabrique au fond les images de ce qui sera plus tard un film documentaire et bien sûr les impressions, les rencontres avec les gens, tout ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas dire dans un film. Donc c'est pour moi la manière de raconter au fond la même histoire d'une autre manière et d'un point de vue beaucoup plus personnel.
Alors, en termes de sujet aussi, vous êtes très intéressé, enfin, beaucoup de vos travaux tournent autour de ça, de la question des dictatures, des régimes totalitaires et de la résistance à ces régimes totalitaires, résistance passive ou active. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à ces questions ?
À vrai dire, je ne saurais pas le dire moi-même. C'est vrai que le cœur de mon travail, c'est, pour faire court, les crimes de masse. Que ce soit les génocides, que ce soit, là on est dans le cas du goulag et bien d'autres versions, que ce soit le terrorisme, etc. Donc c'est pas des sujets très sexy, on va pas se le cacher. D'où ça vient, pourquoi cet intérêt, pourquoi effectivement cette thématique filme ma vie et ce que j'en fais. Alors la manière simple, parce que c'est, de le dire, c'est aussi peut-être un point de vue biographique. Moi je suis issu d'une famille juive polonaise qui a été très violemment frappée par la Shoah. Mon père était orphelin à 5 ans, ses parents ont été, après avoir immigré en France, ont été déportés depuis Paris au camp d'Auschwitz-Birkenau où ils sont morts. Et puis, c'est pas les seuls. Hein. Du côté de ma mère, c'est pareil. Donc voilà, c'est une famille qui a été très lourdement frappée par ça. Pour autant, ça ne fait pas de moi un rescapé par délégation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a certainement préoccupé depuis mon plus jeune âge. Et j'essaie de tracer ce sillon, de savoir comment, par idéal, quel qu'il soit, on en vient à tuer indifféremment des êtres humains. Voilà.
Et puis comment, quelle résistance on peut avoir, je disais, active ou passive. Un de vos premiers documentaires, c'était au Japon sur les... Quand le film s'appelait L'armée rouge japonaise ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, avec les excès des deux côtés.
Alors oui, effectivement, l'armée rouge japonaise, j'ai découvert ça parce que j'ai habité pendant 2 ans au Japon. J'ignorais toute cette histoire, c'est une histoire absolument invraisemblable. Ça a été le premier sujet que j'ai traité sous forme de documentaire, c'était pour Arte, et ensuite sous forme de livre. Et j'y suis revenu, puisque j'ai écrit un roman qui s'appelle « Souvenir du rivage des morts », qui est paru il y a 2 ans, où j'ai repris toute cette histoire de manière extrêmement détaillée, vécue par l'intermédiaire d'un personnage, par les yeux de ce personnage, qui est lui-même fictif, mais tout le reste est vrai, est lui-même un membre de l'armée rouge japonaise, donc qui a été un groupe terroriste, hein, qui a inventé d'une certaine manière le terrorisme international, puisqu'il commence à faire des attentats au Japon, et puis ensuite, ces jeunes gens, c'est tous des jeunes gens de 20 ans, on est en 68, hein. Ils vont s'entraîner pour faire la révolution au Japon, et puis ça tourne au jeu de massacre, ils s'entretuent les uns les autres dans des circonstances absolument invraisemblables, et puis il y a une partie de ce groupuscule qui va tenter de faire la révolution mondiale en rejoignant les camps palestiniens de la BK, du Front Populaire de Libération de la Palestine, et l'histoire va se terminer en 74 à Paris avec l'attentat du drugstore Saint-Germain perpétré par Ilich Ramirez Sanchez Di Carlos, qui était le terroriste le plus connu à l'époque, au nom de l'armée rouge japonaise. Donc une histoire absolument incroyable, qui aujourd'hui est totalement méconnue et sur laquelle j'ai voulu revenir, parce qu'elle raconte beaucoup de choses aussi de notre époque et de cette question dont je parlais juste avant, de voilà, comment est-ce qu'on en vient à tuer des innocents, des inconnus, au nom d'un idéal.
D'accord. Alors, le titre du livre que vous évoquez nous permet de faire une transition, parce que c'est « Souvenir du rivage des morts », ça. Ça fait penser à Dostoïevski, avec
«
Souvenir de la maison des morts », hein, qui est, on pourrait dire, le premier récit sur ce qui était, en fait, déjà le goulag, d'une certaine façon. Donc, on est au milieu du 19e siècle. On l'oublie parfois, on croit que c'est une invention soviétique. Pas du tout, c'est un héritage de l'Empire russe.
On oublie absolument que le goulag, c'est la continuation des bagnes tsaristes qui débutent au 18e siècle et qui d'ailleurs s'implantent dans les mêmes lieux que dans lesquels vont s'implanter ensuite le goulag, c'est-à-dire les camps spéciaux staliniens. Oui, évidemment, c'est une histoire russe, cette manière d'incarcérer les gens. Alors, bon, effectivement, l'époque change, il y a une plus grande létalité dans le cas du goulag, parce qu'au milieu de l'histoire du goulag, il y a la Grande Terreur, qui est vraiment une campagne d'extermination de certaines catégories de la population. Voilà, ce qui la différencie quand même cette époque-là, c'est l'époque du goulag stalinien, des camps tsaristes qui l'ont précédé et auxquels vous faisiez référence avec Dostoïevski, bien sûr.
Oui, et puis il y a une dimension économique du goulag qui est essentielle, même si c'était parfois des logiques économiques absurdes, en ouvrant des chantiers de voies de chemin de fer et tout, qui servent pas, qui serviront jamais, qui seront jamais terminés. Et puis là, sur l'exemple que vous avez pris, hein, là, cette route interminable pour la Colima, une route, j'ai envie de dire, au milieu de nulle part, vers un pays qui est peut-être à une époque l'Union soviétique, mais qui n'est pas la Russie.
Ça n'est pas la Russie, et c'est justement ça sur lequel... Le point sur lequel j'essaie d'insister dans le livre et que vous avez très bien évoqué, c'est-à-dire que le goulag, c'est une entreprise coloniale. C'est-à-dire qu'il y a des régions inexplorées dans ce pays qui est le plus grand pays du monde, la Russie, et pas seulement, hein, ça va jusqu'au Kazakhstan, on est dans la période de l'URSS, donc ça émarge la question proprement russe, et justement il est question de marge, parce qu'aux marges de ce pays, il y a des territoires qui sont d'une hostilité invraisemblable, mais qui regorgent de richesses. Et qui pour les exploiter ? Vous prenez l'exemple de la Colima, de la Yakoutie, donc cette route des ossements qui fait 2000 km, qui est probablement la plus longue route du monde, et probablement aussi l'une des plus dangereuses, eh bien, elle a été construite à la force des bras des prisonniers du Goulag et des Zèques pour des raisons coloniales, parce que cette région regorge de métaux précieux, l'or, l'étain, le cobalt. C'est parmi les plus grandes réserves d'or et d'étain au monde, notamment, et il fallait les exploiter parce que Staline prend cette décision à un moment où, disons, l'économie soviétique est au plus mal. Donc il faut trouver une espèce d'économie parallèle et il faut coloniser ces territoires parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les prisonniers qu'on y envoie ne puissent jamais rentrer en Russie centrale et soient assignés à résidence dans ces régions-là. Donc on va leur construire des villes pour qu'ils restent là et qu'ils continuent d'exploiter ces richesses, y compris après leur libération. Donc il y a vraiment ce cynisme au sein de l'État soviétique qui est d'utiliser la force de travail de ces zèques, et notamment dans la période que je raconte, des politiques, pour ensuite exploiter les richesses insoupçonnées de ces régions. La Kolyma, la Yakoutie en est une, mais il y en a bien d'autres. Et c'est comme ça que va être construit ce que Solzhenitsyn appelait l'archipel du Goulag. Donc il y a véritablement, une entreprise économique, coloniale, qui préside de manière très cynique à l'établissement de ces camps spéciaux dans les régions indiquées.
Oui, et puis quand vous faites référence à Solzhenitsyn, je me souviens de l'archipel du Goulag, où il racontait de façon assez désespérée que, à la limite, il suffisait d'envoyer un petit message à quelqu'un pour se présenter à la police à Moscou, et les gens y allaient, sachant pertinemment qu'ils allaient disparaître de la circulation pour au moins 10 ans, si ce n'est plus.
Oui, alors la plupart du temps, c'est quand même, on est en pleine nuit et puis il y a des agents du NKVD qui débarquent chez vous, qui vous disent habillez-vous, prenez vos affaires et suivez-nous. Et les gens vont d'abord à la Loubianka à Moscou quand c'est à Moscou, et puis ensuite ils sont envoyés dans ces territoires-là sans jamais vraiment nécessairement comprendre ce qu'on leur reproche ni ce qui leur arrive, parce que d'ailleurs dans la plupart des cas ce sont des communistes convaincus. En réalité non, Beria pouvait dire voilà Magadan, on a besoin de 15 types pour continuer à construire tel ou tel quartier ou tel bâtiment, trouvez-moi 15 types. Et parfois on inventait sur un mauvais mot, une plaisanterie entendue, rapportée, le nom d'un type qu'on allait arrêter immédiatement parce qu'on avait besoin de main d'œuvre, tout simplement. Donc ce cynisme-là aussi, si vous voulez, présidait aux arrestations. Mais on a cité Solzhenitsyn et moi je voudrais parler de Varlam Shalamov parce que c'est le plus grand écrivain.
Bien sûr, parlons de Varlam Shalamov. Solzhenitsyn a fait l'objet de pas mal de critiques par la suite. Varlam Shalamov, lui, il est pas critiquable, j'ai envie de dire.
Non, mais il est totalement éclipsé par Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a une œuvre considérable, mais elle a été surtout connue et récupérée pour des raisons politiques par l'Occident dans le contexte de la guerre froide. Donc, d'une certaine manière, Shalamov a été oblitéré par la puissance et la notoriété du prix Nobel qui a été de la paix, qui a été de littérature, pardon, qui a été Solzhenitsyn. Or, l'expérience et l'œuvre des deux hommes diffèrent totalement. Solzhenitsyn était un scientifique, il a passé des années dans ce qu'on appelle une charanchka, c'est-à-dire des laboratoires-prisons où ceux qui y travaillaient, les scientifiques qui y travaillaient, étaient bien au chaud, choyés, en l'occurrence pour Solzhenitsyn à la sortie de Moscou. Shalamov a vécu 17 ans dans cet enfer de glace que j'ai traversé et que je raconte dans mon livre. Il a failli mourir un nombre de fois invraisemblable, il a survécu par un miracle extraordinaire, et ce qu'il raconte dans les récits de la Kolyma, qui est un monument de la littérature, aussi d'un point de vue littéraire, c'est une expérience vécue, une expérience inouïe que Solzhenitsyn n'a pas vécue, qu'il a rapporté par les témoignages qu'il a récoltés, mais Shalamov, c'est pour moi en tout cas d'une toute autre dimension.
Oui, Solzhenitsyn, on peut lui reconnaître le mérite, enfin pour l'Occident, il était au début des années 60, c'était l'auteur de la journée d'Ivan Denisovitch qui a libéré beaucoup de paroles, en tout cas c'est ce qu'on dit, y compris en Russie, mais Shalamov, c'est, voilà, on est dans un autre monde, c'est la réalité du camp, on n'est pas dans la littérature au sens négatif du terme, on n'est pas dans l'imaginaire, alors que la journée d'Ivan Denisovitch, on navigue un peu entre les deux.
Oui, et d'ailleurs, Chalamov n'aimait pas ce livre pour quelques petits détails, parce que Solzhenitsyn raconte que dans le camp, il y a un chat qui se balade, et Chalamov dit « ça n'est pas possible, un chat ne pouvait pas se balader dans le camp, au bout de 2 minutes, il aurait été embarqué et mangé ». Parce que voilà, il y avait des famines, des disettes perpétuellement dans ces camps, et il y a même eu des cas de cannibalisme important, que je rapporte d'ailleurs dans mon livre. Donc on voit bien la différence, disons, de vécu entre les deux auteurs, qui se sont appréciés, qui se sont écrits, et puis qui se sont disputés sur ces raisons-là.